Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans notre émission réalisée au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Je suis Ibrahima, avec moi Christophe et Toumi. Petite dédicace à Louis, Hossein et Hussein, et David bien sûr.
Nous avons choisi de parler d'un sujet qui nous touche particulièrement, la réinsertion.
Comment donner du sens à la détention? Et surtout, comment faciliter la réinsertion des détenus lorsqu'ils ont fini leur peine?
Nous entendrons des détenus du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, Marie-Laure Petit, directrice adjointe de la prison, et Bruno Laffay, directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Ain.
Radio B, les bonnes ondes.
Christophe va nous donner des informations sur les conditions de détention aujourd'hui. Alors Christophe, quel constat peux-tu faire sur la détention?
La détention, en quelques chiffres, c'est une évolution alarmante depuis 2001. En 2001, il y avait 48 000 détenus contre 70 000 en milieu fermé en 2019.
On parle de la réinsertion dans cette émission. Les conseillers d'insertion et de probation sont missionnés pour la mettre en place.
On compte 4 000 conseillers en France. Certains d'entre eux ont jusqu'à 80 dossiers à gérer. Forcément, ça pose des difficultés pour le suivi et la réinsertion des détenus.
Mais comment faire face à ces difficultés, Christophe?
Le président de la République a annoncé en mars 2018 une refonte du système pénal français. On sait qu'en France, il y a une surpopulation carcérale. Les conditions de détention sont problématiques. On pense notamment à la taille des cellules. Il faut savoir que souvent, deux détenus cohabitent dans un espace de 9 mètres carrés.
Des rapports pointent un manque de suivi des conseillers d'insertion. La récidive est en hausse.
Avec la réforme annoncée par Emmanuel Macron, de nouveaux moyens devraient être donnés à l'insertion. Le recrutement de nouveaux conseillers d'insertion notamment.
Dans cette émission, nous avons donné la parole à des détenus du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Vous entendrez ensuite Bruno Laffay, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Ain. Quels sont vos projets à votre sortie de prison?
Eh bien, les projets, mon cas est assez particulier, puisque comme je suis très handicapé, et puis j'ai 57 ans... Donc la réinsertion, c'est difficile. Alors mon projet, c'est simplement d'être mis en semi-liberté pour trouver un logement et puis après reprendre le cours de ma vie.
Personnellement, pas grand-chose. J'espère travailler pour faire quelque chose de mes journées et voilà.
Projet à la sortie de prison, aucun, j'ai 60 ans. Je vais faire mes tableaux, mes peintures et mon bouquin que j'ai commencé à écrire. Non, il n'y a pas de réinsertion.
Tout d'abord, me réinsérer au niveau de la société. Puis, à l'issue, travailler mon projet professionnel, me remettre à mon compte.
Mes projets à ma sortie de prison sont travailler en menuiserie et de continuer comme ça, déjà de sortir de la prison, parce que c'est, la prison, c'est vraiment casse-tête un peu, tu vois.
Les projets, ce serait de rejoindre ma famille, puis de m'occuper de ma famille, puis travailler.
Retrouver mon travail, puis retrouver ma vie normale d'avant,
Rentrer chez moi dans mon pays, retrouver ma femme, mon travail qui m'attend, et même ma petite fille de 5 ans.
Mon projet dès ma sortie, c'est de me réinsérer le plus facilement possible et le plus vite possible. Retrouver la vie que j'avais avant d'être ici.
À ma sortie de prison, j'aimerais bien reprendre les cours, étant donné que j'étais en faculté de droit avant de rentrer malheureusement en détention. Je souhaiterais reprendre des cours. Et
comment as-tu été aidé en détention pour préparer ce projet?
Malheureusement, jusque maintenant, j'ai eu aucune aide de la part de personne. Étant donné que je suis résident étranger, la loi française n'encadre pas ce contexte-là. C'est-à-dire que je suis hors contexte.
On m'a aidé avec le SPIP, assistante sociale, tout ça. Et puis je suis toujours là, quoi.
Pour une réinsertion, il aurait fallu déjà être inséré, quoi. J'ai toujours vécu à l'extérieur, j'ai toujours travaillé dans le théâtre, j'ai jamais eu une vie conventionnelle. J'ai toujours été un peu en marge de tout ça.
En détention, comment avez-vous été aidé pour préparer ces projets?
Déjà, la SPIP, c'est déjà pas mal. J'ai eu des projets pour sortir, à la mission locale, tout ça. J'ai eu une permission de sortie et ça s'est super bien passé. Et j'ai un rendez-vous en mai pour paysagiste et menuiserie. C'est une formation, oui.
Au SPIP, heureusement qu'elle est là, quoi.
Elle fait le relais entre le juge d'application des peines et le centre pénitentiaire. C'est elle qui s'occupe de transférer les documents adéquats à la juge et de transmettre les informations qu'elle a au sujet du séjour de chaque détenu ici. Celle qui transmet les informations au juge d'application des peines. Voilà.
Il y a l'assistante sociale qui m'aide à remplir des dossiers de logement. Il y a le SPIP qui est au courant aussi, qui fait tout pour la semi-liberté.
Ouais. J'ai été aidé par le GREP et par la SPIP. Actuellement, je serai un projet de semi-liberté. pour déjà avoir un premier pas à l'extérieur. Puis à l'issue, voilà, quelques mois à l'issue de ma semi-liberté, j'aurai une conditionnelle. Et là, je préparerai mon projet vraiment professionnel, quoi.
Ouais, personnellement, j'ai été aidé par ma SPIP, par l'association aidée et de la mission locale.
Au début, j'ai rencontré le CNED qui m'ont parlé d'une certaine façon de pouvoir reprendre les cours par leur aide. Mais étant donné que je suis prévenu, je ne sais pas vraiment quand est-ce que je vais sortir. Donc je pense plutôt reprendre ce projet-là à l'extérieur. Et d'ici là, bah, je m'occupe au maximum, je suis des cours, je suis inscrit à un atelier de philosophie. Je suis également un cours sur les enjeux civiques et moraux de la société. Également, en parallèle, bah, je suis des cours d'anglais, vu que, voilà, et sinon, voilà.
Franchement, pas avis personnel, personne. Pour l'instant, non.
Pour ma part, je suis incarcéré depuis 2003. Donc, j'ai été dans d'autres établissements. On est beaucoup plus aidés que, bon, pour être clair, ici à Bourg-en-Bresse. Je pense que pour être aidé, il faut être surtout écouté. J'ai pas l'impression qu'on nous écoute. Les SPIP devraient être plus à demander l'entretien, devrait être plus à venir vers le détenu dès qu'il est possible de se réinsérer. Je pense qu'elle devrait être beaucoup plus présente dans la vie du détenu et de prêter beaucoup d'attention pour un encouragement, créer une perspective, créer quelque chose dans la tête et puis dans tout, créer un environnement pour préparer sa sortie. Et c'est pas du tout ce qui se passe, malheureusement.
Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait proposer pour faciliter la réinsertion après la peine ?
Plus s'intéresser aux détenus, savoir pourquoi ils sont rentrés. Parce que le travail qui est fait, en général, c'est un travail qui est vite fait, quoi. Par la SPIP ou par les personnes qui sont chargées de suivre les détenus. Pour moi, personnellement, le suivi n'est pas fait. Il n'y a pas vraiment un suivi qui est fait. C'est un truc qui est fait à la va-vite, quoi. Moi, je me suis donné les moyens. C'est moi qui ai fait les lettres à l'extérieur. Je me suis donné les moyens pour m'en sortir. Mais après, personnellement, si on ne fait pas le nécessaire, nous, de notre côté, eux, ils ne vont pas faire le nécessaire. Moi, après, c'est mon point de vue, hein. Mais pour moi, ils ne feront pas le nécessaire.
Oh, c'est compliqué comme question, puisque déjà, peut-être qu'il y a plus d'assistantes sociales, peut-être plus d'ateliers de formation, pour proposer plus de choix aussi, des réunions plus souvent, proposer aux détenus tous les mois qu'on leur fasse une réunion avec des professeurs, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Mais tant qu'on ne leur pose pas la question, les détenus ne peuvent pas répondre.
Du soutien des collègues de la prison, déjà. Plus de rendez-vous avec MASPI, plus de rendez-vous avec les gens qui peuvent m'aider ici. J'aimerais bien avoir du soutien, tout ça.
Bah oui, déjà d'être suivi psychologiquement et médicalement et d'avoir une assistance professionnelle autour. Moi, si j'avais, si j'avais pas 60 balais, le premier truc que je demanderais avant de mettre un pied dehors, c'est d'être sûr d'avoir déjà un travail, être pris en main déjà par mon travail, quoi. Parce qu'avec le travail, déjà, on a tout le reste suit derrière. Et si j'ai pas de métier, si j'ai pas de travail, déjà faire une formation, apprendre un métier, c'est la première des choses à faire. Pour être autonome et se démerder un peu dans la vie, quoi.
Selon toi, que faudrait-il améliorer pour faciliter la réinsertion ?
Ce qu'il faudrait, je pense, c'est mettre automatiquement des SPIP, des rendez-vous obligatoires, en fait. Je ne sais pas, par exemple, périodiques, soit une fois par mois, une fois tous les deux mois, quelque chose comme ça. Pour ce faire, il faudrait déjà plus de SPIP. Parce que forcément, quand un SPIP a déjà 200 détenus à s'occuper, elle n'a pas forcément le temps de te voir tous les mois. Et puis peut-être un peu plus d'encadrement pour les SPIP également, parce que des fois, quand on parle aux SPIP, on a l'impression, on le voit immédiatement qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, en fait. Tout simplement, elle est hors champ. Donc peut-être plus de formation déjà pour les SPIP. Et puis voilà, tout simplement que les SPIP soient plus accessibles par les détenus.
Selon moi, il faudrait qu'il y ait un peu plus de SPIP. Pour le nombre de détenus, parce que voilà, il n'y a pas assez de SPIP, et puis elles sont pas renseignées sur la catégorie pénale des prévenus. Enfin, elles peuvent aider que les condamnés. Enfin, il faudrait une approche aussi pour les prévenus, pour les aider à trouver des solutions, par exemple des aides pour trouver des jobs à l'extérieur, parce qu'on nous demande d'avoir des promesses d'embauche, mais c'est pas évident. Il faut connaître des personnes qui pour avoir une promesse d'embauche, il faudrait qu'une personne s'intéresse à nous, enfin proche de la famille, sinon on a peu d'alternatives pour trouver une embauche.
Ben, d'avis personnel, hein. Quand j'ai été en 6 mois que je suis là, je l'ai vu 2 fois. Ben, elle m'a pas trop posé de questions, quoi que ce soit, ou comment faut faire pour se réinsérer, quoi. Enfin, comme donne des clés, comment faut faire pour se réinsérer, enfin, au mieux.
Déjà, plus les suivre, parce que suivre, c'est un grand mot, hein. Et surtout, se donner à fond pour ceux qui se donnent les moyens, ceux qui s'en foutent, comme on dit, il faut les laisser dans leur galère. Et ceux qui veulent s'en sortir, autant les aider à fond, hein. Les voir fréquemment et...
L'écoute du détenu. Comme j'ai dit, la réinsertion, c'est un terme. Mais on n'est pas tous appropriés à ça, en fait. Une écoute pourra faire en sorte qu'on différencie le problème sur chaque personne. Est-ce qu'il y en a plus besoin? Est-ce qu'il y en a moins besoin? En tout cas, l'écoute fera tout, je pense. L'écoute est très importante. Le dialogue est très important. La base se fait en prison. On ne peut pas créer de perspective de l'extérieur et dire « Ah, c'est ton temps, tu t'en sors ». Non, non. Il faut prendre le problème en détention, discuter, savoir que sont les besoins de la personne, s'intéresser déjà, montrer de l'intérêt, parler de sa famille, de pourquoi, et surtout de l'avenir. Les SPIP, alors d'aujourd'hui, pour être franc, sont confrontés au truc d'avoir énormément de travail. Ça devient presque un truc banal pour elles. Pour les juges, c'est la même chose. Ils sont confrontés à avoir énormément de dossiers. Donc, il faut s'intéresser à un truc et ils n'arrivent plus à le faire. Quand une SPIP a plus de 60 ou 80 dossiers, parfois même 100, comment elle peut faire pour s'intéresser à un? Nous, le détenu, dans la première des choses, il va se sentir complètement pas écouté. Il va se sentir laissé à l'abandon. Voilà la problématique. Je pense qu'il devrait avoir beaucoup plus d'écoute au niveau du détenu. Et une création de perspective, en fait. De créer une perspective. Sans créer de perspective, quel espoir il y a? Et là, on arrive à un endroit où il nous faut des perspectives. Il faut les créer.
Bruno Lafay, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Ain.
On vient d'entendre un micro-trottoir réalisé au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Un retour par rapport à ce qui a été dit?
En fait, tout est dit dans ce micro-trottoir. Moi, ce que j'entends, c'est l'excellente connaissance qu'ont les personnes détenues des enjeux de la réinsertion sous différents angles, et puis sur le rôle pionnier et en tout cas prioritaire du SPIP, qui est effectivement tantôt vu sous un angle positif. Et puis, j'entends bien les manques qui sont exprimés dus à des défauts de prise en charge directe, en tout cas dans le cadre d'entretien. Ce que j'entends, moi, beaucoup à la fin, c'est qu'on a l'impression que le CPIP, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, ne travaille que quand il est en entretien avec les détenus. Et c'est une vision qui est très très partielle du travail. On a des temps de réunion qui sont assez assez importants, où on parle des personnes que l'on a en charge, que l'on accompagne et qu'on ne suit pas, comme j'ai entendu. On fait de l'accompagnement. Et ça se fait dans un bureau, au calme, quand on peut être au calme, et pas forcément en face à face avec les détenus.
Alors concrètement, quels sont les dispositifs mis en place en détention pour préparer la réinsertion?
Vaste question. Tout ce qui est mis en place dans une détention vise à préparer la sortie. Dans le discours que j'entends, tout ce que vous nous dites est axé vers la sortie. On entend le désir de trouver un travail, le désir de trouver un emploi, d'être soigné. Je crois que tout ce que fait l'administration en interne, c'est de préparer à ça. En tout cas, quand on travaille, on offre des activités de travail. Ça permet d'avoir un petit peu d'argent, économiser quand on le peut, pour préparer une sortie et avoir un petit pécule, augmenter ses compétences. On a entendu plusieurs personnes qui disaient n'avoir jamais travaillé. Donc le fait de travailler en détention, ça peut réapprendre à travailler, avoir un certain rythme. On a un service scolaire qui permet des montées en compétences sur le plan scolaire, des formations professionnelles qui sont mises en place par le conseiller régional, des entretiens avec le SPIP pour préparer la sortie, l'intervention de Pôle emploi, du GREP, sur l'aspect insertion professionnelle, de multiples intervenants. Vous avez parlé du service médical, la prise en charge des soins. Je crois que tout ça doit nous permettre avec vous de construire un projet faisable. Et ce qui est très étonnant dans ce que j'ai entendu aussi, c'est le souhait d'être réinséré, mais la question de la commission de l'infraction est complètement absente du discours. Et j'ai trouvé ça assez paradoxal.
Ce que vous dites est complètement... On est d'accord. Est complètement vrai. La personne doit avoir besoin du médical, de l'école et du travail pour être accompagnée. Et c'est un accompagnement. En l'occurrence, on va dire la vérité, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Comment on fait pour ça? L'école n'est pas admise pour tout le monde, vu qu'ici, pour à peu près 800 détenus, il y a 5 classes. Donc la structure n'est pas adaptée. On ne peut pas aller à l'école avant peut-être 6 mois d'attente et sur une période de 3 mois. Et malheureusement encore, le médical ne reçoit pas pour un suivi psychologique avant 5 mois à 6 mois. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense un peu ce que vous en pensez derrière votre interrogation. Je pense qu'effectivement, on a des moyens au centre pénitentiaire qui sont importants, malgré les manques que vous édictez. Je crois qu'on essaye, en tout cas quand on dirige un service, d'argumenter toutes les années auprès de nos hiérarchies pour que les moyens supplémentaires soient mis en place dans les établissements. La question du travail, c'est une bonne question, mais la question des soins, c'est la question des soins en détention. Mais on peut dire que c'est aussi la question des soins à l'extérieur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'extérieur, il y a des problématiques au niveau des centres médicaux et de prise en charge en psychiatrie. Il doit y avoir un plan psychiatrique qui est annoncé, je crois, aujourd'hui. Donc, en fait, la prison, elle est un petit peu le miroir des manques de l'extérieur. Et comme on a beaucoup de besoins en prison, les manques de l'extérieur sont encore plus criants en détention. Je crois que c'est un petit peu ce que la manière dont je peux analyser les choses. En même temps, la loi pénitentiaire qui avait été votée en 2009 prévoit de proposer 5 heures d'activité, toute activité confondue, aux détenus, par détenu, par jour. Aujourd'hui, sur le centre pénitentiaire, on est à peu près à 4h30. Donc on n'est pas très loin. Mais je conçois, c'est une moyenne. Donc un détenu qui travaille 10 heures, voilà, ça équivaut à 2 fois 5 heures. Donc on peut avoir un détenu qui travaille et l'autre qui ne travaille pas, et on atteint quand même cet objectif-là. Je comprends que c'est insuffisant, mais on fait tout pour améliorer les choses.
Comment le lien est-il fait entre le service d'insertion et le détenu?
Alors, au moment de l'incarcération, vous le savez, un entretien avec le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est obligatoire. Ce premier entretien, il a un but assez important quand on est incarcéré et que l'on vient de l'extérieur, c'est de pouvoir notamment prévenir la famille pour que la famille ne s'inquiète pas, pour régler des problématiques matérielles liées au logement ou à des choses importantes du quotidien. Cet entretien, il a un deuxième but, c'est de présenter les missions du service. Et les missions du service, c'est la question de la réinsertion, et puis c'est surtout, légalement, la question de la prévention de la récidive. On intervient dans un milieu où tout le monde est condamné. On va essayer d'analyser les causes qui ont conduit au passage à acte, et analyser avec la personne intéressée, c'est-à-dire le condamné, les choses à mettre en place qui permettront à terme d'éviter cette récidive. À chaque personne, il y a un faisceau de causes qui conduisent à commettre une infraction. Et donc, c'est aussi le rôle du conseiller d'insertion et de probation de déterminer quelles sont les causes essentielles pour travailler sur ces causes essentielles. Et puis, on travaille aussi sur les éléments positifs. Vous ne sortez pas de nulle part. Vous avez dans votre entourage familial, social, plein de choses qui sont à valoriser et qui constituent des éléments sur lesquels on doit s'appuyer, vous et nous, pour aider à la sortie.
Quelle différence entre les propositions pour les détenus en maison d'arrêt et au centre de détention ?
Je vous rappelle juste, on est donc sur un centre pénitentiaire qui a deux bâtiments différents. Un centre de détention qui accueille des personnes condamnées à une peine supérieure à 2 ans. En maison d'arrêt, on a des personnes qui sont condamnées à une peine inférieure ou égale à 2 ans, ou bien qui attendent leur affectation dans un autre établissement pour peine, pour purger soit une peine supérieure à 2 ans, soit pour purger des très longues peines. Et puis on a une troisième partie de personnes, ce sont les prévenus, ce sont toutes les personnes qui sont en attente de leur jugement et qui sont incarcérées parce que le magistrat pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir faire des enquêtes de manière sereine ou bien d'éviter une fuite des personnes. Donc j'ai bien entendu ce que disaient certains prévenus hein, en disant « on n'est pas aidé, notamment pour chercher un emploi ». La difficulté aujourd'hui, c'est que légalement, il n'est pas possible de prévoir des permissions de sortir pour les prévenus. Et dans notre réseau, le réseau de Pôle emploi du GREP, quand on postule pour un emploi, ce que demande l'employeur, c'est de voir la personne. Donc la question de l'accès à l'emploi pour les prévenus passe au second plan. J'ai tendance à dire, pour les condamnés, on n'est plus du tout dans cette logique-là. À partir du moment où on est proche soit de la sortie, soit de demander un aménagement de peine, on enclenche effectivement la question des permissions de sortir et de la définition du projet professionnel avec nos relais Pôle emploi, mission locale, GREP.
À l'heure d'aujourd'hui, il y a 70 000 détenus en France environ. Il y a à peu près 4 000 conseillers d'insertion. Au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, on compte 10 conseillers d'insertion et de probation pour environ 700 détenus. Un conseiller assure donc le suivi d'environ 70 personnes. Comment une seule personne peut-elle gérer autant de dossiers ?
Alors, les chiffres que vous annoncez sont complètement justes. Les chiffres aujourd'hui sont dans une réalité que moi je n'ai pas connue quand j'ai commencé de travailler. Parce que j'ai été conseiller d'insertion et de probation au début des années 2000 et j'avais, en fonction des établissements dans lesquels j'ai travaillé, entre 120 et 140 personnes à suivre. Donc en 19 ans, on a divisé par deux le nombre de personnes qui sont accompagnées par conseiller d'insertion et de probation. Donc c'est un effort qui est important, qui a été fait par le gouvernement, qui donne des moyens au ministère de la Justice pour recruter des conseillers d'insertion et de probation, avec pour objectif d'atteindre ce que préconisent les règles européennes de la probation, avec un ratio de 50 à 60 personnes prises en charge en milieu fermé par conseiller d'insertion et de probation. On n'est pas très loin. On agit sur deux manières différentes, voire trois manières différentes. Les détenus sont très demandeurs de rencontrer les conseillers d'insertion et de probation. Donc on a un système en détention de courrier où la personne détenue écrit à son conseiller d'insertion et de probation, en lui exposant rapidement les raisons de l'entretien. Ça, c'est important, parce que ça permet au conseiller d'insertion et de probation de préparer son entretien. La deuxième possibilité, c'est d'intervenir quand le conseiller d'insertion et de probation le souhaite, en proposant un rendez-vous aux détenus. Donc, j'ai entendu certains préconiser des rendez-vous obligatoires. Aujourd'hui, le code de procédure pénale et nos pratiques ne permettent pas ce rendez-vous obligatoire. Qui dirait rendez-vous obligatoire pourrait avoir pour conséquence des sanctions pour le détenu qui ne viendrait pas. Donc on n'est pas dans cette dynamique. La dernière chose, c'est qu'on voit aussi les détenus à l'occasion des demandes d'aménagement de peine sur des choses très précises, au moment des commissions d'application des peines, pour l'étude des permissions de sortir ou des réductions de peine supplémentaires, par exemple. En parallèle, les conseillers d'insertion et de probation montrent des actions collectives de réflexion qui s'appellent des programmes de prévention de la récidive, où on essaye de faire réfléchir des personnes qui ont des problématiques de passage à l'acte à peu près identiques sur les raisons de leur passage à l'acte. Et puis c'est le lien avec les partenaires que l'on estime nécessaire pour répondre aux problèmes que l'on a analysés avec les détenus.
La réforme de la justice du gouvernement Philippe prévoit d'augmenter le nombre de conseillers d'insertion. On en est où aujourd'hui à Bourg-en-Bresse ?
Je peux juste vous dire qu'au 1er septembre 2019, donc c'est les dates d'arrivée des professionnels dans les services, je n'aurai pas de création de poste cette année. Ça, je le sais déjà, donc on espère. Et au-delà des titulaires actuellement en poste, on a 3 personnes qui sont en stage en deuxième année, donc qui déjà prennent en charge des dossiers sous le contrôle d'un professionnel, mais qui permettent de réduire un tout petit peu le nombre de dossiers par conseiller d'insertion et de probation.
Bruno Lafèche, je rappelle que vous êtes directeur du SPIP de l'Ain. Malgré l'accompagnement proposé en détention, la récidive augmente. Pourquoi ?
La question de la récidive, c'est une question qui est compliquée à aborder, notamment en France, parce qu'on n'a pas d'études réellement scientifiques qui mesurent la récidive. C'est compliqué de savoir si toutes les personnes qui sont rentrées pour la première fois en détention, à un moment donné, 5, 10, 20 ans après, vont revenir en détention. Il y a très peu d'études qui font ça. Les seules études que l'on ait, c'est sur la libération conditionnelle. En tout cas, j'ai aucun chiffre qui me permette de penser que la récidive augmente. Il y a beaucoup de condamnés tous les ans, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'ils ont déjà été condamnés auparavant et dans quelle proportion.
Tout à l'heure, on a bien démontré qu'il fallait à peu près plusieurs mois pour aller à l'école, pour travailler et pour avoir un suivi médical. Ces petites peines de 3, 4, 5 mois qui viennent en maison d'arrêt, quel suivi ils ont ?
La loi qui a été votée par le Parlement le 23 mars 2019 prévoit plusieurs choses pour limiter les petites peines d'incarcération dont vous me parlez ici. Ce que prévoit la loi, c'est que les peines de moins de 1 mois d'emprisonnement sont interdites. Donc, c'est-à-dire que le tribunal ne pourra plus les prononcer. Donc ça, c'est la lecture de la loi. Peut-être qu'il y aura des applications un peu différentes et puis peut-être des éléments qui permettront, sous certaines conditions, aux magistrats de prononcer des peines de moins d'un mois. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, le texte, il dit pas de peine de moins d'un mois. Pour les peines comprises entre un mois et six mois, ce que prévoit le texte, c'est qu'elles, normalement, doivent s'exécuter hors de la prison, sous forme de bracelet électronique. Donc la question des petites peines, ou en tout cas des peines inférieures à 6 mois, sera peut-être moins importante à l'avenir. On verra quelle sera la pratique en feront les magistrats. Mais en même temps, vous dites bien des choses essentielles. C'est très compliqué de travailler sur la sortie et de faire de la détention un moment positif quand on a une courte peine. Et en même temps, 6 mois pour un détenu, je ne suis pas sûr que ce soit une courte peine. Quand on est à l'extérieur, on a l'impression que passer 6 mois en détention, c'est court. C'est comme une peine d'incarcération qui, à mon sens, est déjà longue.
Selon vous, que faudrait-il changer pour que la réinsertion fonctionne efficacement ?
Au-delà de la question de l'administration pénitentiaire et du rôle de l'administration pénitentiaire, je crois que vous posez la question de la prise en charge des personnes qui ont des difficultés d'ordre social, à vivre sereinement et en harmonie avec les règles qui sont posées par la société. C'est pour ça que la question que vous posez, elle transcende la question de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire, voilà, je vais essayer de vous l'expliquer, elle prend en charge à un moment donné une population qui est contrainte de venir en détention. Elle essaye de travailler avec elle les causes de l'infraction et de préparer la sortie. La réinsertion, elle se fait à l'extérieur. Et plus j'avance dans ma profession, plus je le sais. Combien on a de détenus qui sont honnêtes, volontaires, au moment de la libération, du passage devant le juge, qui disent « mais c'est bon, c'est la dernière fois, je veux pas revenir, j'en suis sûr », et qui se retrouvent dehors, accompagnés par des professionnels, et qui, pour une raison X ou Y, recommettent une infraction, alors qu'au moment de l'incarcération et au moment de la fin de l'incarcération, le discours était hyper, hyper honnête. Ça, c'est vraiment une grande difficulté sur laquelle l'ensemble de la société, me semble-t-il, doit se mobiliser. Et que être en prison, c'est une chose. Être accueilli par l'ensemble des services publics et que l'ensemble des services publics puissent prendre en charge l'ensemble des difficultés de la population en général, c'est un enjeu sociétal.
Bruno Lafay, merci d'avoir participé activement à notre interview.
Je vous remercie de m'avoir invité.
Marie-Laure Petit est directrice adjointe au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. C'était important de la rencontrer pour discuter de cette question de la réinsertion.
Marie-Laure Petit, vous êtes directrice adjointe au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Quelles sont vos missions ?
Donc en tant que directrice des ressources humaines, je gère l'intégralité des personnels, que ce soit les surveillants, les premiers surveillants, les officiers. Et donc je gère leur carrière, la notation, l'évaluation, les récompenses et puis leur carrière. En tant que directrice de détention en charge des maisons d'arrêt, je gère la détention et l'intégralité du parcours des personnes détenues.
Quelle place est donnée à la réinsertion en prison ?
La réinsertion est au même niveau que la sécurité, que la protection de la société. La prison a deux missions, à la fois protéger la société, punir un délinquant qui est donc a contrevenu au code pénal, mais aussi pouvoir permettre à chaque personne détenue de se projeter et donc de se réinsérer dans la société dès qu'il sortira de prison.
Un rapport d'un groupe de parlementaires de l'Assemblée nationale dresse le constat suivant. Le travail peut être considéré comme un facteur de réinsertion. Qu'est-ce qui est proposé ici à Bourg-en-Bresse ?
Alors, en matière de travail, nous avons d'une part les ateliers. Donc, nous avons 8 alvéoles dans lesquelles plusieurs types de travail peuvent être proposés, que ce soit du montage de jouets ou encore du montage de pipettes ou de la mise dans les enveloppes de cartes postales ou de l'emballage de pièces auto. Nous avons également de la formation professionnelle avec notamment actuellement des formations en ce qui concerne l'hygiène et la propreté des bâtiments. Et puis nous avons la formation espace vert qui se déroule au sein du centre pénitentiaire. En plus, nous offrons la possibilité aux personnes détenues d'être classées au service général avec des tâches diverses comme le nettoyage des abords, auxiliaire d'étage dans les bâtiments, travailler à la buanderie, travailler aux cuisines, être en corvée extérieure. Donc tout un tas de missions qui peuvent développer le travail, et ce qui fait qu'on arrive à quasiment 200 personnes voire plus, qui sont classés au travail.
Quelles sont leurs motivations ?
À mon sens, il y a la volonté de garder un rythme de travail en lien avec la société et en lien avec la vie de toute personne. Ensuite, ce sera aussi d'obtenir une rémunération qui permet d'améliorer le quotidien de la détention par le biais des cantines. Et puis enfin, il y a certainement aussi des motivations par rapport aux réductions de peine supplémentaires qui sont octroyées par la juge d'application des peines quand un détenu travaille.
Vous proposez aussi des formations espace vert, aide propreté, hygiène et bâtiment. Sur une population de 700 détenus, une vingtaine accèdent à ces formations. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de propositions ?
Alors en effet, cette proportion de détenus peut paraître faible, mais nous sommes soumis à des contraintes financières et organisationnelles. Donc c'est la région qui finance les formations. Et donc, en fonction du financement qui nous est octroyé, on ne peut classer qu'un certain nombre de personnes détenues dans les formations.
De nouveaux filets anti-projection ont été installés. Le budget utilisé pour ces filets n'aurait-il pas dû être utilisé pour des moyens donnés à l'insertion ?
Les budgets utilisés pour la sécurité et pour l'insertion sont différents, pas forcément dans le montant. Mais ce ne sont pas les mêmes buts à atteindre et les mêmes objectifs. Les filets anti-projection servent notamment dans le cadre de la lutte contre les violences. En luttant contre les trafics et les projections, on lutte aussi contre les bagarres et les pressions et le racket qui ont lieu en détention. Les budgets alloués à l'insertion sont tout autres. À mon sens, tout à fait important également. Donc l'un ne va pas sans l'autre, car se réinsérer, c'est aussi arrêter de se bagarrer, arrêter de mettre la pression. Donc certes, le but premier est la sécurité, mais il y a aussi un but derrière de retrouver un fonctionnement normal.
Selon vous, Madame Petit, quels autres dispositifs pourrait-on mettre en place pour favoriser la réinsertion ?
C'est une question difficile sur laquelle il faut répondre au pied levé. Il peut y avoir beaucoup d'idées. Moi, je souhaiterais qu'il y ait plus de partage entre l'extérieur et l'intérieur, notamment peut-être développer des témoignages de personnes détenues auprès de lycéens ou de collèges avant qu'ils ne basculent dans la délinquance. Ou peut-être aussi ce que j'ai pu voir en République tchèque dans le cadre de la scolarité de directeur, c'était des personnes détenues qui, en fait, travaillaient chaque jour à l'extérieur. Donc il n'y avait pas de régime de semi-liberté, mais ce sont les entreprises qui accueillaient des groupes de détenus à l'extérieur et finalement qui se fondaient à la masse salariale de l'entreprise. Donc c'est vrai que ça n'existe pas en France sous la forme de détention. Mais voilà, ce partage entre la vie dedans et la vie dehors pourrait éviter cette cassure qu'on a quand on rentre en prison et quand on en sort.
Vous avez lancé un dispositif jeune majeur au centre pénitentiaire de Bourg. Il est réservé à des jeunes entre 18 et 21 ans et leur permet de suivre un parcours vers la réinsertion. Où en est-on dans ce dispositif ?
Alors, ce dispositif marche très très bien pour l'instant. Nous sommes à 6 mois de fonctionnement. Alors, prioritairement, des jeunes de 18 à 21 ans sont intégrés dans le projet, mais on va jusqu'à 25 ans, puisque c'est le cadre d'intervention de la mission locale. Quand je dis que ce dispositif marche très très bien, c'est le recul qu'on en a sur les phénomènes de violence et sur les comptes rendus d'incidents, puisque j'ai regardé très récemment les statistiques. Et en 6 mois, on a eu un seul compte rendu d'incident sur cet étage pour des faits de violence, ce qui est extrêmement bien, à la fois pour les personnes détenues, mais aussi pour les personnels. Donc le projet continue et en 2019, une réflexion est engagée pour étendre le projet au CD et pourquoi pas peut-être à d'autres établissements pénitentiaires.
Peut-on imaginer une ouverture à plus de détenus ?
Alors, pour l'instant, le dispositif est centré vraiment sur les 18-25 ans, puisque les partenaires, comme je l'ai dit, interviennent sur cette tranche d'âge. En revanche, ça peut être exporté, notamment déjà au centre de détention de Bourg-en-Bresse, dans un premier temps, donc pour intégrer les jeunes du centre de détention. Et puis après, comme je l'ai dit, ça peut éventuellement être pris par d'autres établissements. Récemment, il y a un jeune de Dijon qui a écrit pour demander son transfert au CP de Bourg-en-Bresse pour intégrer le dispositif jeune majeur. Donc ça commence à se dire et à parler. Et donc ce sont les détenus qui ont l'outil entre les mains. Donc à eux de s'en saisir et de faire en sorte que ça fonctionne aux côtés de surveillants qui sont extrêmement volontaires et à qui on peut saluer le travail fait.
Marie-Laure Petit, je rappelle que vous êtes directrice adjointe au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Selon vous, quelles pourraient être les alternatives à l'incarcération ?
Il existe déjà plusieurs alternatives à l'incarcération, que ce soit le placement sous surveillance électronique, le travail d'intérêt général, les amendes, enfin tous les dispositifs actuels. En général, quand on arrive à une incarcération, c'est que les magistrats ont essayé toutes ces alternatives et que le résultat était négatif. En tout cas, on n'est pas parvenu au but de la cessation des infractions. Donc, on arrive à l'emprisonnement. Une fois que l'emprisonnement est là, il faut réfléchir à justement une alternative à l'incarcération et donc à un aménagement de peine dans les mois précédant la sortie, pour avoir une sortie cadrée, une libération cadrée, avec le risque le plus faible de récidive.
60% de la population carcérale ont des peines inférieures à 2 ans. Selon vous, sont-ils obligatoirement obligés de passer par la case prison ?
Alors ça rejoint un peu la question précédente, à savoir que quand on en arrive à l'incarcération, c'est que tous les modes alternatifs ont été en principe testés avec une multitude de sursis, de sursis mis à l'épreuve, de tiges, de PSE éventuellement, de contrôle judiciaire, et que l'incarcération est l'ultime phase pour aussi protéger la société et peut-être créer une sorte d'électrochoc dans la tête du délinquant en disant « cette fois, c'est trop, on a passé un cap et c'était l'infraction de trop qui a conduit à l'emprisonnement ». C'est d'ailleurs souvent ce qu'on entend en débat contradictoire quand on voit les personnes, notamment primaires, hein, qui demandent l'aménagement de peine et qui disent ben, « cette incarcération m'a fait comprendre que j'étais allé trop loin ».
Les prisons en Suède ou aux Pays-Bas se vident. En France, on parle de surpopulation carcérale. Pensez-vous que la politique adoptée est la bonne ?
Mon statut de fonctionnaire ne permet pas, évidemment, de critiquer la politique, que ce soit positif ou négatif. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a à gagner, de voir ce qui se passe dans les autres pays européens et d'étudier ce qui se fait, comme on peut le faire au niveau de l'éducation nationale, par exemple. Pourquoi les prisons dans les pays nordiques ferment ? Je suis pas en mesure de vous produire une analyse sur ces chiffres. En tout cas, il doit certainement y avoir certains programmes qui font qu'on arrive à ce constat. Peut-être que ça vient également du système éducatif, scolaire, possible, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a tout intérêt à se rapprocher d'autres pays européens pour pouvoir comparer et analyser le fonctionnement pour éviter de parvenir à un taux d'incarcération trop élevé ou du moins très élevé.
Les prisons ouvertes qu'adoptent ces pays, tous les pays nordiques, sont-elles une alternative à un autre système, à savoir responsabiliser le détenu, lui donner plus de pouvoir se remettre en cause et de pouvoir faire les choses par lui-même au lieu d'être infantilisé comme l'est en ce moment les conditions de détention.
Alors oui, quoi qu'il en soit, il existe plusieurs niveaux de sécurité et il n'y a pas forcément que des prisons ouvertes, puisque quand un détenu est particulièrement dangereux, il ne va pas se retrouver en prison ouverte. Il existe ce système-là dans plusieurs autres pays avec des niveaux de sécurité, hein, de haute sécurité ou basse sécurité, notamment voilà ce que vous disiez sur des prisons ouvertes. En France, on a quelques prisons très à la marge où il y a une ouverture beaucoup plus large. Je pense notamment à Casabianda ou à Mozac. Où on a un système avec une confiance, mais une confiance dans le détenu, dans la personne détenue, mais avec malgré tout un cadre et un profil de détenu qui, en principe, ne présente plus de dangerosité avérée pour la société, du moins une dangerosité importante.
Merci Marie-Laure Petit d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
À l'issue du micro-trottoir et des différentes interviews, je retiens qu'il y a un nombre restreint de conseillers d'insertion pour une population conséquente. Chaque détenu n'a pas la possibilité d'avoir un suivi régulier et personnel. Je pense qu'il serait judicieux d'augmenter l'effectif des conseillers.
J'ai remarqué avec cette intervention qu'il manque cruellement de communication entre les condamnés et les surveillants. Il faudrait beaucoup plus d'activités et un moyen plus efficace pour prévenir les détenus.
Je pense que tous les détenus vont s'en sortir. Les personnes qui les prennent en charge veulent les aider, mais malheureusement, le constat est clair. On a un manque d'outils et de possibilités pour être satisfait et être en capacité de le faire correctement. L'espoir est donc de mise.
C'est la fin de notre émission.
Merci pour votre écoute.
À bientôt sur Radio B.